7h04.
Chapitre 101, la carafe.
Avant que le navire anglais ne disparaisse à nos yeux, il convient de noter ici qu'il venait de Londres et portait le nom de feu Samuel Enderby, marchand de cette cité et fondateur de la société d'armement Enderby et fils. Fameuse dans le monde de l'industrie baleinière et qui, selon ma modeste opinion de pêcheur, ne vient pas très loin derrière les maisons royales unies des Tudors et des Bourbons, du point de vue de l'intérêt historique. Mes très nombreux documents relatifs à la pêche ne me disent pas clairement depuis combien de temps cette importante maison existait avant l'âge de grâce 1775. Mais cette année-là, 1775, elle arma les premiers bâtiments anglais qui, depuis lors, chassèrent régulièrement le cachalot. Cependant que, depuis quelques dizaines d'années avant cette date, en fait, depuis 1726, nos vaillants Coffin et Massé de Nantucket et du Vineyard lançaient des flottes nombreuses à la poursuite du Léviathan, mais seulement dans l'Atlantique Nord et Sud, et nulle part ailleurs. Il faut souligner que les pêcheurs de Nantucket furent les premiers de l'histoire humaine à harponner l'énorme cachalot avec un acier civilisé, et que pendant un demi-siècle, ils furent les seuls sur la planète à procéder de la sorte. En 1788, un beau bâtiment d'Amélia, l'Amélia, armé à cet effet, aux seuls frais de l'énergique maison Enderby, doubla hardiment le Cap Horn. Il fut le premier d'entre toutes les nations de la Terre à affaler une baleinière dans la grande mer du Sud. La croisière, habilement menée, eut d'heureux résultats et l'exemple de l'Amélia qui rentrait au port la cale pleine du précieux spermaceti eut au fait d'être suivi par d'autres navires anglais et américains. Les vastes eaux du Pacifique s'ouvrirent ainsi à la pêche du cachalot. L'infatigable maison ne se contenta pas de cette bonne action, elle se remit en branle. Samuel et tous ses fils, leur mère seule pourrait dire combien ils étaient, parvinrent à obtenir du gouvernement britannique que soit confiée à la corvette de guerre Rattler sous leurs auspices et, je pense, en partie à leurs frais, un voyage d'exploration baleinière dans les mers du Sud. Placé sous le commandement d'un capitaine de vaisseau, le Rattler fit un voyage retentissant et rendit des services difficiles à apprécier. Mais ce n'est pas tout. En 1819, le même établissement arma pour son propre compte un navire baleinier qu'il envoya en mission dans les eaux lointaines du Japon. Ce navire, bien nommé la Sirène, fit une magnifique croisière expérimentale qui permit au monde de découvrir les riches parages de pêche japonais. Lors de ce célèbre voyage, la Sirène était commandée par un certain capitaine Coffin, originaire de Nantucket. Honneur donc au Enderby dont la maison existe encore aujourd'hui, si je ne me trompe, bien que le père fondateur doive avoir depuis longtemps largué son amarre pour les vastes mers du sud de l'autre monde. Le bâtiment qui portait son nom était parfaitement digne de cet honneur. C'était un voilier très rapide, noble à tout égard. Je suis monté à son bord une fois à minuit, au large de la Patagonie, et j'y ai bu un excellent flip dans le gaillard d'avant. Ce fut une gamme bien cordiale, les hommes étaient tous de chic type, à qui je souhaitais une vie brève et une mort joyeuse. Et cette gamme qui eut lieu longtemps, bien longtemps après que le vieil Akab eut posé son talon d'ivoire sur son pont, et relié dans mon esprit à la fièvre, solide et toute saxonne hospitalité de ce navire. Que mon pasteur m'oublie et que le diable ne me lâche plus, si jamais j'en perds le souvenir. Ai-je bien parlé de cette bière chaude ? Oui, nous avons pinté sec. La bière coulait au rythme de 10 gallons l'heure, et quand vint le grain, car les bourrasques ne sont pas rares dans les eaux de Patagonie, et qu'on envoya tout le monde, invités compris, prendre des riz à la une. Nous étions pleins comme des barriques et il nous fallait nous accrocher les uns aux autres dans les boulines et sans nous en rendre compte, nous ferlions les pans de nos vareuses dans les voiles, de sorte que nous sommes retrouvés suspendus là-haut, solidement arisés dans la rafale. Vivant avertissement pour tous les maturins en état d'ivresse. Les mâts, cependant, restèrent bien en place et nous parvîmes. À redescendre tant bien que mal, si bien dégrisé qu'il fut nécessaire de faire à nouveau circuler le flip, auquel les gerbes d'écume salée qui s'engouffraient par l'écoutille du gaillard d'avant donnaient, à mon goût, en le diluant une saveur de saumure. Le bœuf était bon, coriace mais savoureux. Certains disaient qu'il s'agissait de viande de taureau, d'autres de dromadaire, mais j'ignore ce qu'il en était exactement. On servit également à bord des boulettes, petites mais consistantes, parfaitement rondes, en un mot indestructibles. Il me semblait qu'on pouvait les sentir rouler dans son estomac après les avoir avalées, et que si l'on se penchait un peu trop en avant, on risquait de les voir ressortir comme des boules de billard. Quant au pain, qu'aurait-on pu y faire ? D'ailleurs, c'était antiscorbutique. Bref, le pain était le seul aliment frais à bord, et comme le gaillard d'avant était peu éclairé, il était toujours très facile d'aller se réfugier dans un coin sombre pour manger son morceau de pain. Mais à tout prendre, le Samuel Enderby dans son ensemble, de la quille à la pomme de mât, eut égard aux dimensions des chaudrons du coq, dont ceux de son propre estomac, était un fameux navire. Une bonne et abondante chair, un flip corsé à souhait, et rien que des braves garçons. Tous épatants du talon de la botte au ruban du chapeau. Mais comment se faisait-il, demanderez-vous, que le Samuel Enderby et quelques autres navires baleiniers de ma connaissance, pas tous cependant, puissent prodiguer une si somptueuse hospitalité, dispenser ainsi le bœuf, le pain, la pinte de bonne bière et la pinte de bonne humeur, sans que jamais personne ne se lassât de manger, de boire et de rire. Je vais vous le dire, toute cette bombance à bord des baleiniers anglais fournit ample matière à recherche historique, et je n'ai jamais ménagé mes efforts d'historien de la pêche baleinière quand cela m'a paru nécessaire. Dans l'histoire de la pêche de la baleine, les Anglais eurent pour prédécesseurs les Hollandais, les Zélandais et les Danois, dont ils héritèrent de nombreux termes encore en usage aujourd'hui dans la profession, et surtout leur ancienne et plantureuse manière de table. Car en règle générale, le navire marchand anglais est d'une extrême pingrerie avec les repas de son équipage, et non le baleinier. La ripaille dont je parle est donc chez les Anglais, non point chose normale et naturelle, mais accidentelle et particulière. En conséquence, elle doit avoir quelques origines précises. Je note ici le fait qu'il sera élucidé plus loin. Au cours de mes investigations léviathanesques, je suis tombé sur un vieil ouvrage hollandais dont l'odeur de baleine moisie m'assurait qu'il devait traiter de pêcheurs baleiniers. Le titre en était « V. een Tonnemerk » et j'en déduisis qu'il devait s'agir des précieux mémoires de quelques marins tonneliers d'Amsterdam, puisque tout navire baleinier a son tonnelier de bord. Je fus confirmé dans mon sentiment lorsque je découvris que le volume était l'œuvre d'un certain Fritz Meyolschberg. Mais son docte ami, le docteur méthodique, professeur de haut allemand et de bas batave aux universités de Pâques et de la Trinité, à qui j'avais confié l'ouvrage afin qu'il le traduisît, lui faisant cadeau pour sa peine d'une boîte de bougies de spermaceti, ce cher docteur méthodique, dis-je, n'eut pas plutôt aperçu le livre qui m'assura que Van Tonnenmerk ne signifiait pas le tonnelier, mais le marchand. Bref, cet ancien et savant ouvrage en babatave traitant du commerce de la Hollande, traité du commerce de la Hollande et contenait, entre autres choses, un fort intéressant tableau de sa pêche baleinière. Et c'est dans le chapitre intitulé « Smyre, la Grèce » que je trouvais une liste fort longue et détaillée des approvisionnements embarqués dans les gardes-manger et les caves d'une flotte de 180 navires baleiniers hollandais. De cette liste, traduite par le docteur méthodique, j'extrais ce qui suit. 400 000 livres de bœuf salé, 60 000 livres de porc frison, 150 000 livres de morue séchée, 550 000 livres de biscuits, 72 000 livres de pain frais, 2800 tonnelets de beurre, 20 000 livres de fromage de Texel et de Leyde, 144 000 livres de fromage, sans doute de qualité inférieure, 550 ankers de genièvre et 10 800 muis de bière. La plupart des tables statistiques sont d'une lecture aride et desséchante. Ce n'est pas le cas ici. Le lecteur croule sous une avalanche de barriques, futailles, galons et canons, de nourriture solide et de bon gain. J'ai, à l'époque, consacré 3 jours entiers à la studieuse digestion de ces tombereaux de pain, de bœuf et de bière, au cours desquels me traversèrent l'esprit des légions de pensées susceptibles d'une application transcendantale et platonicienne. En outre, j'ai confectionné alors pour mon compte des tableaux supplémentaires relatifs à la quantité probable de morue séchée, etc. Consommé par chaque harponneur babatave de cette ancienne pêche du Groenland et du Spitzberg, en premier lieu, les quantités de beurre et de fromage de Texel et de Leyde paraissent stupéfiantes. J'explique la chose par le tempérament naturellement onctueux de ces hommes, rendu plus onctueux encore par le caractère de leur métier, en particulier cette chasse qui se déroule dans les mers polaires glaciales, au large des côtes du pays esquimau, où les indigènes trinquent en choquant des timbales de trane. La quantité de bière est également considérable, 10 800 muides. Songeons que les campagnes de pêche, se limitant au court été de ces climats, la croisière complète d'un de ces navires hollandais, y compris le court voyage d'aller et retour depuis les eaux du Spitzberg, ne devait guère excéder 3 mois. Si l'on compte 30 hommes pour chacun de leurs 180 bâtiments, nous obtenons 5400 marins, babataves en tout. Et par voie de conséquence, et très précisément, 2 muits de bière par tête pour une ration de 12 semaines. Ce calcul excluant la jolie part de chacun sur les 550 ankers de genièvre, que ces harponneurs, que l'on peut imaginer généreusement imbibés de gin et de bière, avaient été la sorte d'homme qu'il fallait pour se dresser à l'avant d'une pirogue et viser d'une main sûre des cibles fuyantes, paraît bien improbable. Pourtant, ils lançaient leur dard et piquaient la baleine. Mais cela se passait dans le Grand Nord, gardons-nous de l'oublier, où la bière convient à l'organisme. Sous l'équateur, en revanche, dans les parages des mers du Sud, la bière aurait pour effet d'endormir le harponneur, à la pomme du mât et de l'étendre, ivre mort dans la pirogue. Il en résulterait des pertes terribles pour Nantucket et New Bedford. Mais suffit, nous en avons assez dit pour montrer que les baleiniers hollandais, d'il y a 2 ou 3 siècles, étaient des bons vivants et que les marins anglais ne sont pas restés insensibles à cet excellent exemple. Si vous naviguez avec une cale vide, font-ils remarquer, et que le monde ne vous offre rien de mieux, faites au moins contre mauvaise fortune, bonne chère. Là-dessus, vidons la carafe.